Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série de l'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, un ami des géants chlorophylliens de climat tropical s'invite sur les ondes. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Je m'appelle Florian Frex-Bavuz, originaire de Paris il y a très longtemps. Je suis finalement, après un master en écologie et botanique tropicale, je suis parti vivre une seconde vie à Madagascar, et ce depuis maintenant une dizaine d'années. Quand je suis arrivé à Madagascar, j'étais arrivé un petit peu dans le cadre d'une ONG pour moi, en tant que petit parisien, pour apprendre à des paysans malgaches que la manière dont ils cultivaient n'était pas forcément la meilleure et qu'il fallait essayer de passer au bio. Alors évidemment, ça a remis beaucoup de choses en question, mais ce qui est sûr, c'est que par contre, j'ai trouvé un travail qui me plaisait énormément, qui était les cultures. Et je me suis petit à petit mis en fait au paysanat malgache, mais en me basant sur mes connaissances théoriques sur l'écologie. J'ai commencé en fait à faire de l'agroforesterie à mon compte et à monter en fait une petite ferme. Petit à petit, j'ai essayé de me spécialiser sur la sélection des semences maraîchères, sur leur caractère de résistance, pour essayer de proposer en fait aux paysans des semences plus faciles à adapter aux techniques bio et qui soient donc plus résistantes et qui aient besoin de beaucoup moins de pesticides. Donc je me suis spécialisé en semences, en agroforesterie, et aussi en autonomie paysanne. En fait, c'est de permettre sur une parcelle de terrain de pouvoir produire tout l'engrais dont on a besoin, en plus des cultures que l'on peut faire dessus. C'est une vie qui a duré presque pendant 9 ans. À la fin, je travaillais presque 100 heures par semaine, c'était assez compliqué. Et depuis presque 6 mois maintenant, je suis sur un nouveau projet d'agroforesterie. Alors là, sur des très grosses surfaces dans l'est de Madagascar, j'ai un peu changé d'endroit, où là, mon travail, en fait, est de diversifier les espèces d'arbres que l'on cultive dans une plantation monospécifique pour justement apporter de la biodiversité, améliorer les sols, parce qu'on travaille sur des sols qui sont extrêmement abîmés, qui sont en totale fin de vie, et de valoriser, en fait, les plantes et les arbres endémiques dans cette plantation de monoculture. Au-delà de ça, à côté, je commence aussi une pépinière de plantes endémiques et d'orchidées, qui était ma passion de départ et pour laquelle je m'étais tout d'abord intéressé au tout début de mes études et même depuis très très longtemps. C'est des passions forcément que j'ai développées avec Madagascar, c'est tous les aspects en fait torico-botaniques. Alors je sais que ça a toujours un peu rapport avec la botanique, mais c'est en fait les anciens vestiges malgaches qui ont été un petit peu abandonnés et j'adore me retrouver dans ces anciens vestiges malgaches et de retrouver une atmosphère complètement hallucinante, c'est-à-dire que dans les hauts plateaux par exemple, les forêts ont quasiment disparu intégralement. Et dans les vestiges des anciens villages malgaches, on va retrouver des grosses douves très profondes, de 4, 5, jusqu'à 6 mètres, et qui ne font que 2 à 3 mètres de largeur, mais dans lesquelles on va retrouver en fait de la forêt, avec presque que des plantes endémiques. Et j'aime beaucoup en fait cet aspect-là de penser que les malgaches d'antan, finalement, ont construit des structures qui permettent aujourd'hui à la nature d'être préservée dans des zones où elle a été totalement exterminée, par les descendants de ces ancêtres-là. Donc voilà, c'est un peu ma deuxième passion, c'est l'histoire malgache et les anciens vestiges qui sont en train de dépérir. Et j'ai toujours aimé les orchidées, et j'ai un véritable radar à orchidées, on me met n'importe où dans le pays. S'il y en a une, je ne peux pas passer à côté, je la verrai. Même si elle n'a pas de feuilles, même si elle n'a pas de tige, même si elle n'a que des racines, voilà, je la verrai en haut d'un arbre, même si elle ne fait que 10 cm. J'ai essayé un petit peu de mettre cette passion-là dans mon travail, justement avec une pépinière d'orchidées endémiques.
noch lang nicht los und noch nur Fleisch und ich will noch hinaus.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi? Saurais-tu le décrire en trois mots? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son.
La première, complexe. La vie est extrêmement complexe. Les interactions entre les êtres vivants les uns les autres. Dès qu'on change un petit paramètre, ça va changer toute la chaîne alimentaire. On rajoute une fleur, ça peut changer tout le système agronomique de son terrain. Donc voilà, la complexité. Le deuxième mot pour la vie, pour moi, c'est le sans-pitié. Ça peut paraître un peu bizarre parce que j'adore la nature, j'adore les forêts, j'adore justement la complexité de mes champs, mais c'est sans-pitié. C'est-à-dire que par exemple, dans une forêt, toutes les plantes en fait, se font plus ou moins une petite guerre, soit une guerre d'accès aux ressources, soit une guerre pour atteindre la lumière, une guerre de chimique au niveau des racines. Donc voilà, c'est une nature qui est sans-pitié. Pour moi, la vie, c'est aussi la diversité.
Pour l'odeur,
la vie, elle a une odeur de champignons. C'est vraiment en fait l'odeur que l'on va retrouver dans les forêts, dans l'humus de la forêt, et qui est en fait la base de la vie et du développement d'une forêt. C'est l'humus. C'est vraiment l'odeur de l'humus qui va toujours de pair avec l'odeur des champignons. Donc moi, c'est l'odeur de la vie, c'est l'odeur des champignons, parce que grâce aux champignons, on a de l'humus. Alors, il y a aussi les bactéries, bien sûr, mais elles, on ne peut pas les sentir. On sent les champignons. Et c'est cet humus-là qui va permettre aux forêts de se développer sur des sols qui sont pourtant très pauvres, très profonds, sans vraiment de nutriments. Et la forêt, pour moi, c'est la vie. Pour le son, je dirais les grenouilles, toujours liées à cette idée de l'eau. C'est aussi une des bases de la vie sur Terre. Les grenouilles, on en entend partout ici, dès la saison des pluies. Et c'est pour moi très important parce que avec mon travail d'agriculteur et d'agroforestier, sans pluie, je n'aurais pas de travail et je ne pourrais rien faire. Et le deuxième son, un petit peu, que j'associe avec la vie, les grillons et les cigales. À chaque fois que je vais dans mes champs, à chaque fois que je vais dans la forêt pour travailler. Alors, pour le goût, ce serait l'odeur de la roche mouillée. Par exemple, dans les hauts plateaux malgaches, un des rares endroits autres que les vestiges historiques dans lesquels on peut trouver de la forêt, les restes de forêt peuvent se retrouver principalement le long des rivières. Et moi, c'est un endroit où j'aime énormément aller me promener pour justement pouvoir collecter des graines d'arbres endémiques, rares, etc. C'est d'aller me promener le long des rivières. Et le long des rivières, il y a toujours des rochers et de l'eau, et donc l'odeur de la roche humide. Pour ce qui est de la texture granuleuse, alors je travaille la plupart de mon temps pieds nus ici. On ne peut pas travailler vraiment en chaussures dans les champs ici, c'est trop boueux. Et du coup, je suis toujours en contact avec la terre. La vie part aussi du sol. Et du coup, pour moi, la vie a une texture granuleuse parce que je foule la terre pieds nus quasiment toute ma vie ici à Madagascar.
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets?
Je décrivais la nature comme étant très complexe, mes parcelles de culture sont effectivement très complexes. Sur 1,5 hectare, je cultivais environ 800 variétés de légumes, fleurs, arbres, végétaux différents. C'est de toujours faire des interactions positives entre toutes les plantes que je cultive les unes les autres. Donc je vais toujours essayer de les mélanger pour qu'elles puissent pousser positivement ensemble et ne pas mettre deux plantes compétitrices les unes à côté des autres. Je vais aussi jouer énormément sur ce que l'on appelle les effets bordures. Une plante au bord d'un champ n'a pas le même comportement qu'au milieu de son champ. En fait, je ne cultive mes plantes que en plate-bande, donc ce qui fait que je n'ai quasiment que des effets bordures. J'ai une plate-bande d'une variété, une plate-bande d'une autre variété plus loin. Je cultive plein de plantes différentes les unes avec les autres. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et moi, ça me permet aussi, au niveau agricole, parce que je n'ai pas d'autres revenus que mes revenus agricoles. Imaginons qu'il y ait un événement climatique quelconque, soit trop d'eau, soit pas assez d'eau, soit un gel, parce que parfois il gèle. Vu que j'ai toujours énormément de diversité dans mes champs, j'aurai toujours un grand nombre d'espèces ou de variétés qui résisteront. Je n'aurai jamais un dégât sur 100% de mes parcelles. Sur tous les essais que j'ai faits, effectivement, il y en a beaucoup qui n'ont pas abouti. C'est un petit peu difficile pour le moral, bien régulièrement, surtout quand on n'est aidé par rien ni personne. Mais j'ai trouvé des solutions petit à petit, des solutions qui m'ont paru vraiment concrètes. j'accueille sur mes parcelles des stagiaires pendant une semaine, donc 4 stagiaires pendant une semaine, toutes les 2 semaines. J'ai un petit peu de tout, j'ai autant des paysans que des personnes qui veulent transiter vers la culture bio, que des étudiants. J'ai un public très très diversifié qui n'est strictement quasiment que malgache. J'ai la chance de parler couramment malgache, ça m'aide un petit peu. Les formations que je fais sont payantes vu que j'y passe toute la semaine à accueillir 4 stagiaires et que je ne passe mon temps qu'à ça en fait, à leur restituer un petit peu toutes les conclusions de mes essais qui restent normalement relativement accessibles à la classe moyenne. Sur 1,5 hectare, j'ai 3000 mètres carrés de rizières. Sur lesquels je cultive plusieurs types de riz, du riz parfumé, du riz noir, du riz rouge, du riz blanc, enfin j'ai plusieurs couleurs différentes. Et sur les 1,2 hectares restants, j'ai environ 2000 m² de parcelles d'études, d'essais et de recherche-développement sur divers types d'engrais verts à faire pousser pour améliorer les sols et ou pour de la production de biomasse, afin de faire du compost. Et le reste, sur le 1 hectare, ce sont vraiment mes cultures à proprement parler de légumes, dans lesquelles j'ai aussi 1200 arbres fruitiers, dont beaucoup de variétés différentes. On a des prunes, des pêches, des abricots, des amandiers, des citrons, des agrumes, mais aussi quelques arbres tropicaux. Hein. On a des néfliers, on a pas mal d'arbres fruitiers différents. Et donc sur cet hectare-là, vraiment, c'est là que je cultive effectivement mes 800 variétés de fleurs, légumes et arbres un petit peu rigolos. Tout ce que je cultive, j'essaie de cultiver des choses toujours un petit peu rigolotes qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, pour les tomates, on a 90 variétés de tomates. On a des noirs, des jaunes, des rouges, des roses, des noirs et rouges, des noirs et roses, des roses et jaunes, j'ai toutes les couleurs. C'était un petit peu ça qui me faisait rêver au départ, c'était de cultiver en fait des fruits et des légumes de toutes les couleurs. Ça me faisait un petit peu rêver de faire des étals multicolores et j'ai réussi à faire ça au bout de 10 ans, moi petit parisien. Lors de ma première année à Madagascar, j'ai rencontré une jeune femme qui sera devenue ma femme. Et du coup, cette jeune femme était paysanne et cette paysanne adorait la couleur violette. Le paysanat à Madagascar est extrêmement compliqué. Pour vous donner un ordre d'idée, un paysan gagne environ 10 euros par mois. Ça ne fait pas très cher payé pour le travail fourni. Et du coup, le rêve de tout paysan est de ne pas être paysan, de sortir de la paysannerie. Et moi, je sentais que si je voulais la garder avec moi sur un projet paysan, il fallait que je trouve quelque chose qui puisse l'intéresser aussi. Et du coup, j'ai cherché tous les légumes violets possibles et imaginables à pouvoir cultiver. J'ai trouvé des carottes violettes, j'ai trouvé des tomates violettes, j'ai trouvé des brocolis violets, et j'ai trouvé en fait tous les légumes qu'on peut imaginer existent en couleur violette. Mais au-delà de ça, une fois avoir découvert tous ces fruits et légumes de couleur violette, je me suis rendu compte qu'en fait tous les légumes existent quasiment dans toutes les couleurs différentes. Et je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être un projet bisounours, mais je trouvais ça magnifique. Et finalement, la nature, c'est aussi le beau. Et je me dis qu'une des meilleures manières de pouvoir valoriser le travail du paysan, c'est de produire en fait des productions qui sont belles, de faire rêver le consommateur. Et c'est un petit peu le défi que je m'étais lancé, que de faire rêver le consommateur avec des produits complètement hallucinants et avec des récoltes merveilleuses et esthétiquement très 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 belle. Comme tous les milieux un petit peu paysans ruraux, le changement est toujours très long. Du fait qu'en plus moi je suis un étranger, j'essaie toujours de mettre en fait la situation inverse. Mais disons qu'un étranger arrive en France, qu'il arrive dans un milieu paysan et qu'il fait tout à sa manière à lui de chez lui. Il y a tous les paysans qui vont un petit peu soit se moquer de lui, soit lui tomber dessus, soit lui jouer des mauvais tours et des mauvais coups, parce qu'on se doit à la campagne de faire un petit peu comme les autres. Et moi, c'est un petit peu le problème que j'ai, c'est que je ne fais rien comme le paysan malgache. Et j'ai eu droit à tout. les moqueries, on m'a un petit peu tout cassé, on nous a volé, etc., etc. Quand sont arrivées les premières récoltes, en plus, c'était un petit la honte pour nous, vu qu'on arrivait sur les étals des marchés. En fait, tout le monde tripotait nos récoltes, parce que personne n'avait jamais vu ça, mais en fait, personne n'achetait. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir et d'aller au-delà, et je me suis dit, bon, si les clients ne veulent pas de nos récoltes, on va commencer autrement, on va finalement vendre les semences de nos récoltes. Et si alors nos clients commencent à cultiver eux-mêmes dans leur jardin des fruits et légumes bizarres qu'ils n'ont jamais vus, ils se rendront compte en fait que c'est naturel, parce que ça vient de leur jardin, que c'est eux qui les ont cultivés. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure de mon entreprise avec ces semences-là. Et finalement, ça fait 9 ans qu'on vend des semences. Il y en a certaines qui ont fait le tour de Madagascar, par exemple le riz noir qui maintenant est cultivé un petit peu partout à Madagascar grâce aux semences qu'on a partagées. Et petit à petit, on a commencé aussi à vendre effectivement des récoltes qui sortaient de l'ordinaire. Ça a fini par marcher. C'est une île qui est extrêmement grande et on a des clients dans tout Madagascar.
On va passer à la question d'actualité. Un des précédents épisodes Feuilles de Chou, le numéro 46, en podcast sur le site de notre radio PFM 99.9, mentionnait le texte européen contre la déforestation et la dégradation des forêts. Normalement, devant être appliqué en décembre dernier, ce règlement permettait d'exclure des produits importés occasionnant la déforestation dans les pays d'origine. On parle de denrées que nous consommons quotidiennement, telles que le cacao, le café, l'huile de palme, le soja, la viande bovine, le bois, le caoutchouc, ainsi que certains produits dérivés comme le cuir, le charbon de bois, le papier imprimé. La déforestation désigne la conversion des forêts, telle que définie par la FAO, vers un usage agricole, et la dégradation des forêts, définie sur la base de différents critères de changement structurel du couvert forestier. Il est donc question, via ce règlement européen, de mobiliser autour d'une meilleure traçabilité et transparence des chaînes d'approvisionnement. Pour y parvenir, étant donné l'ampleur de la tâche, à l'échelle mondiale, tous les pays seront classés dans une des 3 échelles de risque en évaluant les critères suivants. Le taux de déforestation et de dégradation des forêts, le taux d'expansion des terres agricoles pour les produits de base en cause, les tendances de la production des produits de base et des produits en cause. L'entrée en application de ce texte a été repoussée au 30 décembre 2025, suite à la mobilisation d'opposants à ce texte. Officiellement, la Commission a proposé de repousser d'un an la date d'application en réponse aux préoccupations exprimées par les États membres de l'Union européenne, les pays tiers, les négociants et les opérateurs craignant de ne pas être en mesure de s'y conformer pleinement si les règles étaient appliquées à partir de fin 2024. D'ici juin 2025, la Commission européenne doit présenter une étude d'impact portant sur l'extension du règlement à d'autres surfaces boisées, à d'autres écosystèmes naturels, à d'autres produits de base et aux acteurs financiers. Cette étude d'impact sera, s'il y a lieu, assortie d'une proposition législative à l'initiative de la Commission européenne. Le règlement sera réexaminé au plus tard, le 30 juin 2028, puis au moins tous les 5 ans par la suite. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
Pour le bio, par exemple, j'ai compris en fait très vite la durée des 3 ans de conversion en bio. En partant de parcelles non bio pour se transformer en bio, on ne peut pas directement passer du conventionnel au bio en une seule année. Ce n'est pas faisable. Je comprends qu'on veuille essayer de toujours donner un petit peu de temps en plus. Ça, je le comprends. D'un autre côté, je trouve que de toujours repousser les dates, ça ne changera rien. C'est toujours acculé que l'on finit par trouver des solutions tout court. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu dans mes expériences professionnelles. À chaque fois qu'on a eu des difficultés, il a toujours fallu les surmonter. Ils l'ont reculé une fois, et puis quand la date butoir reviendra, ils la reculeront. Pour moi, c'est un recul sans fin. Et ces gens-là qui ne veulent pas voter cette loi-là ou qui veulent repousser le vote de cette loi-là, j'aimerais vraiment les inviter à venir dans les forêts tropicales, pour avoir vécu moi-même dans les forêts tropicales au Cameroun, pour avoir vécu moi-même dans les forêts tropicales à Madagascar. Ces forêts-là, elles souffrent. Elles souffrent parce qu'effectivement, elles subissent la déforestation de plein fouet. Il faut savoir que la déforestation, ce n'est pas que couper des arbres. On parle d'une mort des sols. Un sol tropical, c'est un sol qui est très profond. C'est un sol qui est très sensible. Lorsque l'on coupe une forêt tropicale et qu'on la brûle derrière, parce que c'est toujours ce qui se passe, on perd l'humus. On perd en fait la seule petite couche de sol fertile des sols tropicaux. Et donc une forêt qui est coupée, qui est brûlée, ne reviendra jamais. Et moi, ça me fait un petit peu de la peine que des gens qui sont un petit peu assis dans leur bureau, bien au chaud, en Europe, ne veuillent pas voter. En fait, on la couardise de ne pas vouloir voter ce genre de texte qui, à nous, les pays tropicaux, nous porte vraiment extrêmement préjudice. Sachant que, bon, les forêts, certes, il y a les arbres, mais il n'y a pas que les arbres. Ma passion étant les orchidées, par exemple, juste pour ne prendre que cet exemple-là, un arbre est un écosystème à lui entier. C'est un petit peu, pour moi, en tant qu'écologue, presque une planète, à lui seul, dans le sol ou sur un arbre, se trouvent des épiphytes. Les épiphytes sont des plantes qui poussent sur les arbres, sur les branches. On peut trouver parfois plus d'une cinquantaine de différentes espèces sur un seul arbre d'orchidées. On peut trouver toute la faune qui va avec, les fourmis, les scarabées, les champignons. Bref, un arbre, ce n'est pas un individu, c'est ce sont des milliers d'individus différents, et probablement des centaines d'espèces, en tout cas dans les forêts transhumines. Pour moi, c'est de la fainéantise intellectuelle, de la fainéantise politique, parce qu'on ne veut pas essayer de se projeter à trouver des solutions pour préserver ces forêts-là. Ben, je remercie froidement nos politiciens européens de ne pas vouloir voter ces lois-là, car on en subit les conséquences, et elles sont extrêmement dramatiques. Nous, ici, c'est des centaines de milliers d'hectares qui sont fauchés, coupés, brûlés, pour rien. À chaque fois que je vais en forêt, j'en ai pour 3 heures de marche environ, plus 2 ou 3 heures de 4x4 pour y aller, c'est parce que les forêts ont quasiment disparu, et c'est vraiment un crève-cœur. Ça me donne de la force pour mon travail, mais ça me donne aussi un petit peu de la rage du désespoir, parce qu'on ne peut pas lutter nos décidants politiques en Europe n'ont pas le courage de voter des lois sensées et intelligentes.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
Le premier mercredi du mois d'août, il y a toujours la plus grande foire agricole de Madagascar qui s'appelle la Firmada, à laquelle nous assistons depuis 5 années en proposant toutes nos variétés de semences. Au niveau des auteurs, alors il y a une autrice qui a changé en fait ma perception des feux de brousse dans les tropiques. Stéphanie Carrière, qui est une chercheuse de l'Institut de Recherche pour le Développement, donc l'IRD, qui avait fait une étude sur les arbres orphelins de la forêt. Elle avait étudié le fait que des paysans, lors de la culture sur brûlis dans les forêts, coupent une grande partie de la forêt, mais laissent quelques arbres assez majestueux, assez grands, et qu'en fait ces arbres-là servaient de perchoir pour les oiseaux, et du coup les oiseaux allaient y nicher, faire caca en fait, et qu'en fait ces oiseaux-là permettaient par la suite de régénérer ces parcelles-là de manière parfaitement naturelle. Ces arbres-là créent aussi de l'ombre. Ces arbres-là, en faisant tomber leurs feuilles, reconstituent un humus. Et donc, les populations paysannes qui défrichent en laissant quelques pieds d'arbres majestueux sur leurs parcelles permettent d'accélérer la jachère et finalement la régénération d'une forêt une fois que la parcelle aura été délaissée. Puisqu'on ne peut pas lutter contre les feux de brousse à Madagascar, pour moi, la meilleure manière, ce serait peut-être de suivre cette culture qui est faite au Cameroun par les Ntoumou, pour permettre la régénération future de la forêt. Les arbres orphelins de la forêt aux éditions de l'IRD. Notre vraie nationalité est l'humanité. Si toutes vos bombes étaient des graines, le monde mangerait à sa faim au lieu de courir à sa faim.
Voici que cet épisode, aux côtés d'un explorateur des connexions entre matières brunes, plantes et systèmes agricoles durables, prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle, fraîchement cueillie. Les œufs tremblent, tremblent être noyés.